Vous écoutez un article de l'Informateur judiciaire.
Les Vendéopôles, piliers de l'économie vendéenne depuis 30 ans, nés dans les années 1990 d'une ambition politique, les Vendéopôles sont devenus l'un des atouts majeurs du développement économique vendéen. Ces 14 parcs d'activités, stratégiquement répartis, ont permis de décentraliser l'emploi, d'ancrer les entreprises dans les territoires ruraux et de dessiner un maillage territorial cohérent. 30 ans plus tard, le modèle continue d'évoluer, confronté aux enjeux fonciers, aux attentes environnementales et aux mutations du travail. Par Mathieu Marin. En sortie d'autoroute, sur la route des vacances ou en quittant la ville pour rejoindre les campagnes vendéennes, les totems XXL estampillés Vendéopôles attirent immanquablement le regard. Du nord au sud, 14 sites jalonnent le territoire. Ces parcs d'activités pourraient presque passer inaperçus, mais ici, la marque Vendéopôles s'impose partout, affirmant une identité forte. Il résulte d'une volonté politique née au début des années 1990. La réflexion est alors de maintenir un équilibre territorial et d'éviter une concentration de l'emploi autour de la Roche-sur-Yon ou des Herbiers, en développant des zones pour les activités industrielles et tertiaires dans les secteurs ruraux, tout en répondant aux nouvelles exigences logistiques. À l'époque, on s'est rendu compte que l'économie locale reposait presque exclusivement sur l'agroalimentaire. En observant nos voisins confrontés aux crises du textile et de la chaussure, nous avons compris qu'il devenait urgent de diversifier notre tissu économique. L'objectif était d'élargir notre panel d'offres pour éviter les risques de plans de licenciement massifs, se souvient Jackie Dallette, président de la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent, les Essarts. Sous l'impulsion de Philippe Devilliers, alors président du Conseil général, une stratégie volontariste est lancée. La collectivité imagine les premiers Vendéopôles, connectés aux nouveaux échangeurs autoroutiers, avec l'ambition de proposer aux entreprises du foncier bien desservies et dotées de services mutualisés. Les Vendéopôles de première génération y sont principalement implantés en Nord-Vendée, limitrophe à la Loire-Atlantique, pour attirer des poids lourds de la métropole de Nantes. Aujourd'hui, Guillaume Jean, président-directeur général de Vendée Expansion, théorise cette approche de l'usine à la campagne, qui marie performance industrielle et cadre de vie. On voulait prouver qu'on pouvait produire au plus haut niveau sans s'implanter dans une métropole. Misère sur la ruralité était un pari, mais un pari maîtrisé. Et finalement, on voit bien que les personnes qui travaillent dans ces entreprises n'ont pas 50 km à faire pour s'y rendre. Une première charte y est définie. Chaque parc doit comporter au minimum 40 hectares, dont 30% réservés aux espaces verts. Chaque site bénéficiera du soutien financier du département à hauteur de 1 à 1,5 million d'euros. Le symbole Louis Vuitton, installé dès 1997 sur le site de la Mongie, entre Saint-Florence et les Essarts, Idem 85 incarne les débuts du modèle. Fondée par Valérie Drouot-Gourmel, cette entreprise de sous-traitance industrielle accueille principalement des salariés en situation de handicap. Il fallait présenter notre projet à la Société pour l'aménagement et le développement économique de la Vendée, SODEV, puis aux élus pour obtenir un bâtiment et un accompagnement lors des travaux d'aménagement. Nous étions seulement la troisième entreprise implantée. Cette idée de parc d'activité à la campagne nous a séduits car il y avait de nombreux travailleurs en situation de handicap dont certains ne disposaient pas de moyens pour se déplacer en ville, explique-t-elle. Au fil des années, l'entreprise s'est étoffée et un nouveau bâtiment de 2000 m² a été construit en 2009, doublant ainsi sa surface de production. Stratégiquement situé à la jonction des autoroutes A83 et A87, le site de la Mongie devient la figure de proue de ces parcs d'activité lorsque deux ateliers du mastodonte de la maroquinerie de luxe Louis Vuitton s'implantent en 1999, rejoints par un troisième en 2018, portant l'effectif total à près de 800 salariés. Voir le logo Louis Vuitton affiché à l'entrée d'une zone, c'est plus qu'un signal. C'est une fierté et un aimant à projet, se félicite Jackie Dallette. Les fleurons vendéens tels que les groupes Beneteau, Dubreuil ou encore La Boulangère suivent le mouvement. Tous les secteurs sont représentés et l'activité économique se diversifie, allant de Steff Transport, en passant par Essar Bois, négociant en bois. Aujourd'hui, le site compte 2000 salariés et une soixantaine d'entreprises. Un outil d'attractivité qui change l'image. D'année en année, la Vendée change son image et devient un modèle de développement pour d'autres territoires français. Des délégations venaient étudier les Vendéopôles, séduites par leur aménagement. Une des clés du succès réside dans la politique volontariste de prospection menée par les élus. Notons aussi que les salons d'entreprise, comme ceux organisés à Paris, ont contribué à renforcer la visibilité du territoire, détaille Guillaume Jean. En 2003, une seconde vague de Vendéopôle voit le jour, de Bournezeau à Fontenay-le-Comte. Un nouveau modèle multisite réaffirme même un principe fondateur, la solidarité entre territoires. Le Vendéopôle du Haut-Bocage comprend ainsi 4 sites implantés dans chaque communauté de communes des Herbiers, de Mortagne-sur-Sèvre, de Pouzauges et de Saint-Fulgent. Pensé pour éviter que seules les zones les plus attractives, comme celle des Herbiers, en sortie d'autoroute, ne monopolisent les implantations, le projet s'inscrit dans une logique d'équilibre territorial. Un dispositif de mutualisation a été instauré. Les recettes, y compris fiscales, étaient redistribuées entre les communes partenaires. Cette condition était indispensable pour garantir l'adhésion au projet de l'ensemble des territoires, appuie M. Jean. Progressivement, le modèle évolue puisqu'aux hectares disponibles viennent s'ajouter des services. Hôtels, restaurants, crèches. Les sites deviennent des lieux de vie. Des espaces bien-être et des parcours végétalisés émergent aussi, et depuis quelques mois, les aires de covoiturage se multiplient. Autre signe de l'attractivité croissante des Vendéopôles, des entreprises venues de Loire-Atlantique s'intéressent aux dernières parcelles disponibles. C'est le cas de l'entreprise Pilet, filiale du groupe Papin, qui a choisi de s'implanter aux Herbiers. Spécialisée dans la maçonnerie en béton armé, la société a rejoint le parc l'an dernier. L'activité est essentiellement à Nantes et Angers, mais la proximité de l'autoroute est un vrai atout, souligne Bertrand Blénaud, président du groupe Papin. Le nouveau bâtiment de 1 350 m² s'étend sur un terrain de plus de 10 000 m² pour un investissement de 2 millions d'euros. Les défis de demain à l'heure de la Loisanne, mais après des années à exporter ce modèle à l'échelle départementale, ces zones sont devenues hyper locales, regrette Olivier Poirier-Coutancet, directeur du développement à Vendée Expansion. Depuis la loi NOTRe de 2015, le département a perdu la compétence économique directe, laissant aux intercommunalités et syndicats mixtes la gestion, l'entretien et le développement de ces parcs d'activité. La dynamique est également moins tournée vers la prospection. Si Vendée Expansion poursuit sa mission d'accompagnement et d'ingénierie, Guillaume Jean note que les derniers enjeux chiffrés datent de 2014. À cette époque, plus de 250 entreprises étaient implantées sur les 14 sites, dont 30% provenaient d'autres régions. Nous souhaitions alors créer 7 500 emplois à l'horizon 2017, avec plus de 6 000 postes déjà recensés à la fin de l'année 2014. Les investissements, partagés entre les collectivités et les entreprises, s'élevaient à 400 millions d'euros, dont 17 millions apportés par le département, explique-t-il. Après 3 décennies, l'heure n'est donc plus à la construction de Vendéopôle. L'extension des sites est difficile, notamment en raison de la rareté du foncier et des contraintes environnementales liées à la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Les derniers mètres carrés disponibles, entre 17 et 40 euros le mètre carré selon la situation géographique, suscitent un tel engouement que plusieurs communautés de communes lancent des procédures d'agrandissement. À la Mongie, une demande d'autorisation environnementale a été déposée en début d'année. Sur nos 110 hectares, il ne reste que quelques parcelles. On anticipe, car les grandes entreprises demandent vite 5 ou 6 hectares. Il faut toujours penser au coût d'après et notre projet porte sur une extension de 18 hectares, la réalisation d'une voie de désenclavement et d'une voie douce, souligne Jackie Dallette. A contrario, initialement considéré comme en retard, en plein cœur de la Vendée, le site de Saint-Hermine parvient aujourd'hui à se distinguer et à valoriser son potentiel. D'une surface de 220 hectares, dont 190 hectares aménagés, il lui reste 30 hectares d'extension projetée. Les exemples d'implantations récentes abondent. Exia y développe une plateforme logistique de 32 000 m² à énergie autonome, Biohabitat y a grandi de son site, Corallium s'apprête à lancer une fonderie d'aluminium de nouvelle génération. Nous avons investi 2 millions d'euros dans le réseau électrique pour éviter les coupures. Aujourd'hui, nous avons la capacité d'accueillir des projets ambitieux, avec une approche sélective. Sans cela, le Vendéopôle aurait déjà été vendu 20 fois, explique Bruno Fabre, vice-président de Sud Vendée Littoral, en charge du développement économique. Le site est passé de 1200 à bientôt 1400 emplois en 4 ans. Et la communauté de communes l'a bien compris, les emplois créés ne restent pas cantonnés aux zones d'activité. Ils irriguent les communes alentours, stimulent la demande en logement, des services de proximité et des écoles. Une entreprise, ce sont aussi des familles qui s'installent. Les jeunes ménages regardent au-delà du salaire et se posent la question des services et des transports, observe Bruno Fabre, qui a longtemps souhaité une halte ferroviaire à Nalliers pour desservir le sud Vendée. L'un des principaux arguments était l'aspect économique porté par le Vendéopôle voisin. La région Pays de la Loire, par la voix de sa présidente Christelle Morancet, n'a pas donné suite au projet préférant une ligne express de car entre Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. privilégier une économie productive avec des savoir-faire. Si Saint-Hermine constitue une exception, avec une réserve foncière d'une trentaine d'hectares, la tendance générale observée depuis une dizaine d'années montre que les territoires sont fortement sollicités par les groupes logistiques en quête d'espace pour le stockage et la redistribution de marchandises. Un phénomène accentué par l'explosion des colis à l'heure de l'e-commerce qui modifie profondément les besoins. À chaque projet de plateforme, les élus doivent arbitrer entre attractivité économique et préservation du foncier. Dans ce contexte, Guillaume Jean prévient. On pourrait être tenté de se dire « vendons notre foncier » et même si cela ne crée que 10 emplois, il n'y aura pas de problème de logement. Mais le paradoxe actuel et l'une des difficultés, c'est que ce sont de très grandes consommations de foncier pour très très peu d'emplois. Mais il alerte aussitôt. Une fois que les hectares sont mangés, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Et de souligner, avec une pointe de fermeté politique, la campagne à pas cher sur les zones d'activité n'a pas non plus vocation à devenir la poubelle des métropoles. D'où l'enjeu, selon lui, de privilégier une économie productive avec des savoir-faire, plutôt qu'un empilement de fonctions logistiques à faible valeur ajoutée pour les territoires. Dans un département où la dynamique entrepreneuriale est un moteur reconnu, les vendéopôles s'imposent comme des leviers stratégiques de développement. En alliant accessibilité, foncier adapté et services mutualisés, ils offrent un cadre propice à l'implantation et à la croissance des entreprises. Ce maillage réfléchi entre infrastructures et tissus économiques témoigne de la capacité de la Vendée à anticiper les besoins. Mais les défis restent nombreux entre transition écologique, innovation technologique et attractivité durable. Ils dessineront les contours du développement de demain. Pour Camille, si possible, et à voir, il y a une carte des 14 vendéopoles dans les photos. Je pense que cela peut être utile pour les lecteurs comme pour le dossier Porte Olona. Merci et bon courage. Words Characters Reading Time.